Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Alors que le FMI s'inquiète de la dette chinoise, Pékin a décidé de s'attaquer au shadow banking. Le shadow banking, c'est ce qu'on appelle aussi la finance de l'ombre ou la finance fantôme, un système différent du système bancaire classique. Bonjour Jezabel Coupet-Soubeyran.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maître de conférence à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Alors je l'ai dit avec mes mots, mais vous allez définir mieux que moi ce qu'est le shadow banking.
Vous l'avez bien dit, système de l'ombre. Un système de l'ombre, on pourrait, si vous voulez, voir ça comme un ensemble mouvant d'entités financières qui réalisent des opérations assez proches de celles des banques, notamment qui fournissent du crédit, qui font des transferts de liquidités contre des titres, qui prennent en charge des risques, mais qui ne sont pas du tout réglementés comme les banques.
Et c'est ça qui pose problème, parce qu'en fait, les banques aujourd'hui sont très réglementées et le shadow banking, lui, il fait un peu ce qu'il veut.
Oui, c'est vrai. Alors, ça pose un problème, mais la question à se poser, c'est au fond la question de savoir si on peut avoir une approche directe de la régulation de ce shadow banking. Parce que, je vous l'ai dit, c'est un périmètre assez mouvant. Mm-hmm. D'accord ? Donc, ça grossit effectivement à mesure que les banques arrivent à transférer des risques sur ces entités du shadow banking. Mais l'important, c'est sans doute les connexions qui demeurent entre banques et shadow bank. Et c'est ça qui fait grossir le shadow banking.
Donnez-nous des exemples, justement. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui, ces shadow banks?
Eh bien, si vous prenez, par exemple, des fonds alternatifs, des fonds spéculatifs, ce qu'on appelle les hedge funds, ils portent mal leur nom parce que ce sont pas des fonds qui font de la couverture, ce sont des fonds qui réalisent des opérations de gestion d'actifs très, très spéculatives. Eh bien, ces fonds-là, généralement, bénéficient de prise de participation par les banques. Si vous prenez des véhicules de titrisation dont on a beaucoup parlé avant la crise des subprimes. Pourquoi ? Parce que pendant la crise...
Là, je crois qu'il faut que vous définissiez ce qu'est un véhicule de titrisation.
Je vais vous expliquer cela. Juste avant la crise des subprimes, eh bien, les banques avaient trouvé la possibilité de revendre des crédits par paquet, de les transformer en titres. C'est ce que l'on a appelé la titrisation. Et pour effectuer cette titrisation, pour revendre ces paquets de titres, il fallait créer des entités spécifiques. Elles ont fait partie du shadow banking, elles font toujours partie du shadow banking. Ce sont des véhicules de titrisation à qui les banques ont passé, si vous voulez, ces paquets de crédit et qui ont émis des titres adossés à ces paquets de crédit. Bon, eh bien, ces véhicules de titrisation portent des risques bancaires sans être réglementés comme les banques. Ça fait typiquement partie du shadow banking.
Et oui, parce que ce que vous venez de rappeler, Jezabel Coupet-Soubeyran, c'est que la précédente crise, celle de 2008, elle est arrivée suite à la titrisation de créances qui étaient des créances extrêmement risquées. Du coup, les banques, maintenant, ne peuvent plus faire ce qu'elles veulent. Il y a l'accord de banque Bâle 3,5, c'est un certain nombre de régulations qui s'appliquent. Et alors, du coup, en fait, tout ce qu'elles ne peuvent pas faire, elles le font désormais avec ces shadow banks.
Alors bon, c'est pas si simple que ça. Effectivement, le shadow banking est devenu un peu le déversoir des risques bancaires. Les banques transfèrent des risques sur les entités du shadow banking. Après, il faut, si vous voulez, quand même être assez vigilant à l'égard de l'argument qui consiste à dire, eh bien, au fur et à mesure qu'on resserre la réglementation des banques, on les incite à transférer leurs risques sur les entités du shadow banking. Il est vrai que le shadow banking grossit de cette manière-là, mais vous voyez que le problème, c'est pas la réglementation des banques que l'on renforce. Le problème, ce sont les connexions qui se maintiennent entre les banques et les shadow banks. On parlait des entités du shadow banking telles que les véhicules de titrisation tout à l'heure. Cela bénéficie, par exemple, de lignes de liquidité que leur apportent les banques. Et c'est ça qui leur permet, si vous voulez, d'exister et de prospérer. De la même manière que des hedge funds bénéficient de prises de participation des banques. On n'a pas touché, dans le cadre des réformes, on n'a pas touché à ces liens entre banques et shadow banks, et ce sont ces liens qu'il faut défaire.
Alors, je l'ai dit en introduction, on en a peur, par exemple, en Chine. Pourquoi est-ce un risque spécifique aujourd'hui, donc, pour les Chinois ?
Mais parce que en Chine, le crédit a énormément grossi du fait de ces entités de shadow banking. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'augmentation du crédit en Chine provient non pas du secteur bancaire traditionnel, bien qu'il y ait participé, mais une grande partie de cette augmentation provient des entités du shadow banking. Et donc c'est à l'origine d'une augmentation énorme de la dette du secteur privé. Lorsque la dette se développe alors même qu'elle aurait dû se résorber du fait de la crise, vous avez une fragilisation des structures financières et donc vous avez une exposition très forte à un risque de retournement.
Est-ce qu'il y a également du shadow banking aujourd'hui en Europe?
Bien sûr qu'il y a du shadow banking en Europe. Il y a du shadow banking aux États-Unis, mais beaucoup en Europe et peut-être même de plus en plus en Europe. Alors, si l'on regarde les chiffres du Conseil de stabilité financière, qui est un comité qui surveille de près le shadow banking, les chiffres font peur. Alors, selon qu'on a une vision très large du shadow banking, qui essaie de recenser un peu les entités de ce shadow banking, on a un chiffre de 92 000 milliards de dollars. Si on a une vision un peu plus étroite sur la base des opérations, crédit, fourniture de liquidités de ces entités du shadow banking, on arrive à 34 000 milliards de dollars.
Ce sont des chiffres énormes, puisque je croyais que la capitalisation globale était de 100 000 milliards de dollars.
Ce sont des chiffres énormes.
Ça signifierait qu'on pourrait avoir autant d'actifs en shadow banking que dans la capitalisation globale des entreprises?
Oui, on a à peu près, si vous voulez, un tiers des actifs financiers mondiaux qui sont gérés par des shadow banks.
Parce que pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, il y a par exemple 200 milliards de capitalisation avec le Bitcoin, on en fait beaucoup de foin, c'est donc donner un ordre d'idée, vous parlez de 32 000 milliards de dollars, on est sur des chiffres qui sont sans comparaison.
Oui, là on parle carrément, si vous voulez, d'une autre planète et de chiffres qui explique l'hypertrophie de la sphère financière.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant, Gisabelle Coupé-Soubéran?
Ce qui peut se passer si on ne défait pas les liens entre banques et shadow banks, c'est que les banques, si vous voulez, soient contaminées par des difficultés touchant ces shadow banks. C'est là, finalement, qu'il peut y avoir un problème de risque systémique. Ce ne sont pas ces entités du shadow banking en soi qui sont porteuses de risque systémique, mais les connexions qu'elles entretiennent avec les banques font que leurs difficultés sont contagieuses.
Vous voyez la prise de conscience politique?
Prise de conscience politique, oui et non. Il y a eu des petites choses pour essayer de circonscrire un peu ce shadow banking. Il y a eu des petites choses. Alors, aux États-Unis, mais Donald Trump est en train de défaire ce qu'il y avait dans Dodd-Frank à ce propos. Des petites choses en Europe aussi, mais pas suffisamment pour défaire les liens entre banques et shadow banks.
Merci Gisabelle Coupé-Soubéran. Vous êtes maître de conférence à Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous avez notamment publié Parlons Banque en 30 questions aux éditions de la Documentation française.